RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec la véritable star de Bergerac. Ça c'est quelque chose. Maître Yodu est là, Johan Durand. Salut Johan.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Prophète en son pays, incroyable. Qu'est-ce que tu nous as fait le week-end dernier là?
J'ai gagné le 5 et le 10 de Bergerac, mais bon. Mais 700 coureurs, 700, c'était une belle manifestation.
Ouais, bon.
Un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé à l'organisation, aux bénévoles et tout, parce que c'était la première édition, donc c'est jamais évident de relancer des courses sur route, parce que tu dois trouver plus de 150 bénévoles, et en 2025, trouver de 150 personnes qui veulent bien se mettre à un carrefour à 21h30 le soir, il faut leur tirer un coup de chapeau, ouais.
Est-ce que Jonathan Priolo, le maire de Bergerac, réfléchit à la statue en ton honneur ou pas encore?
Alors, il réfléchit à une statue, mais voilà. Elle sera tellement belle que des fans viendront dans la ville de Bergerac et il a peur qu'on soit débordé.
Le seul truc qu'on connaît pas encore, c'est la taille de la mèche sur la statue. Mais bon, ça, on réglera ça.
La taille de la mèche.
Ouais, c'est ça. Moi, record pour RMC Running, merci à tous. Un grand merci pour cette fidélité sans faille. Vous nous rejoignez toujours sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram, sur TikTok, sur les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser des notes et des commentaires, s'il vous plaît, sur YouTube, sur Apple, sur Spotify. Et si vous vous abonnez, vous avez une notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Comme ça charbonne pas mal en ce moment, n'hésitez pas à le faire.
Les notifs sautent. Hein, ça.
Voilà. Il y a beaucoup de notifs, mais il y a plein de sujets intéressants à traiter, notamment une histoire incroyable aujourd'hui. Un exemple de résilience et de force mentale, on va recevoir Yannick Elaf, ex-espoir de l'équipe de France, médaillé d'argent par équipe aux Europes de cross en 2017. Frappé par la maladie, quelques années plus tard, en 2023, on va vous raconter son parcours, la difficulté d'affronter cette épreuve et la façon dont il s'est remis en route et dont il reprend progressivement l'entraînement. J'aurai également une belle histoire, une belle initiative à vous présenter, celle de Mika qui va nous rejoindre et qui fait une belle action parce qu'il va parcourir 600 km en 15 jours de Marseille à Dijon, 15 marathons consécutifs pour apporter un soutien et de la lumière sur une maladie, la leucodystrophie et une petite fille qui est touchée par cette maladie, Mila, 8 ans. On vous expliquera tout ça en deuxième partie. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec un guerrier aujourd'hui.
RMC Running.
Il est en direct avec nous, Yannick Elaf. Salut Yannick.
Salut, comment ça va?
Vous allez bien? Ça va. Écoute, on est ravis que tu sois là et on a hâte de raconter cette histoire, cet exemple, je le disais, de résilience. Déjà, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu te remets? Tu t'entraînes correctement, Yannick, aujourd'hui?
Ça va, j'arrive à m'entraîner correctement. Je suis bien entouré et assez suivi encore aujourd'hui. Du coup, ça va, j'essaye de faire au mieux.
Yannick, 27 ans, aujourd'hui, un nom que tu connais, Yodu, vous vous connaissez, vous êtes déjà croisé.
Oui.
Tu peux nous parler de Yannick, comment tu le connais, quand est-ce que tu l'as rencontré, tout ça?
Yannick, c'est la génération, à Jimmy, c'est la génération, toute cette génération à Louis Gilaverte. C'est une grosse génération qui est arrivée il y a quelques années, là, depuis 3-4 ans maintenant, à très haut niveau. Et Yannick, c'est vrai que c'était un grand espoir du 1500 mètres, un vrai miler à l'ancienne, très rapide, très vif. Qui a eu des perfs par moment qui auraient dû lui permettre de percer comme certains ont pu percer, comme Hugo a percé, comme Jimmy a percé, comme même Louis a fait les Jeux Olympiques. Et Yannick a toujours manqué à la petite porte qui s'ouvrait, tu vois, des fois le facteur pas de chance. Mais par contre, des fois, c'était un vrai tueur. Sur des championnats de France élite, il avait été monstrueux. Et c'est dommage parce que voilà, il a eu des pépins physiques, des blessures. On en a souvent parlé parce que il avait des tendinites au tendon d'Achille. Donc il me posait souvent la question comment. Posait souvent la question comment j'avais pu soigner tout ça. Mais voilà, Yannick, c'est une bonne personne. Donc c'est vraiment un gars super bien. Ouais.
Yannick, tu fais partie d'une énorme génération. Hein. On le disait, Louis Gilaverte, Jimmy Gressier, Hugo Hay. Il y avait du monde à ton époque, en tout cas quand vous étiez en espoir.
Oui, c'est ça. Grosse génération. On était une bande de potes. Hein. On s'est connus assez jeunes, vers 15 ans. Et au final, on a grandi ensemble. Du coup, en plus de la perf et de l'athlétisme, y avait tout cet à côté qui fait que, je pense, qui fait qu'on a pu perfer aussi dans l'athlète. C'est qu'on s'entendait très bien et qu'on prenait ça pour un jeu.
Le 1500, c'est ta distance de prédilection. C'est ce que tu préfères, Yannick?
Plus jeune, oui. En tout cas, c'est toutes les sélections que j'ai pu faire en jeune sur la piste, c'était sur 1500 mètres. Et après, j'ai eu quelques soucis perso qui ont fait que je me cherchais un peu, je me suis un peu perdu. Enfin, je savais pas quelle distance je voulais pratiquer, du coup, je faisais un peu de tout, en tout cas sur la piste. Et je suis passé un peu sur 5000, mais avec les problèmes de tendon d'Achille, j'ai pas pu vraiment exploiter mon potentiel sur cette distance. Parce que vu que c'est une distance beaucoup plus longue sur la piste, avec les pointes, mes tendons, ils ont pas fait long feu et ça a été très compliqué. Voilà.
Et je vais donner des chronos de référence quand même, hein, Yodu, ouais. Comme ça on va pouvoir se rendre compte. Record sur 1500, c'est quoi? C'est 3,37, c'est ça que j'ai, Yanni?
C'est ça, j'ai fait ça en 2020 en espoir. Et ouais. Sans carbone aussi, je préfère le préciser.
Et voilà, voilà, sans triche, t'as raison.
Sans wave light et tout ça.
Ouais. Voilà,
et
ça. Sans rien.
Sans tout ça. Sur 5000, j'ai un 13,28. Ouais. En Belgique d'ailleurs, en 2022.
J'ai fait ça sur mon premier 5000 et après, des soucis, j'arrivais pas à les finir ou je finissais pas mes saisons à cause de mes tendons, du coup assez compliqué.
Ouais, sur un premier, c'est fort, ouais. Quand on connaît pas forcément la distance, taper 13,28 d'entrée de jeu, c'est pas mal.
J'ai dû 1,50 sur 800, ce qui est très solide aussi. Voilà.
Ouais, bien plus jeune, ouais.
Et j'ai aussi un peu de 10 carottes, hein, t'y allais, hein, 30,15 en 2017 à Paris.
J'étais junior. Depuis, j'en ai pas tellement fait. J'ai pas tellement fait de route, mais j'aimerais. Avec tout ce qui m'est arrivé, changer un peu de cap et en faire beaucoup plus.
Avant qu'on rentre dans le détail de l'histoire, raconte-nous ton rapport avec l'athlète. Comment tu arrives dans ce sport? Qu'est-ce qui te motive à y aller d'ailleurs?
Mon père a fait du haut niveau. Il a fait les sélections avec l'équipe d'Algérie.
Ouais.
Dans les années 90, avec un certain Nordin Morsli. C'est la même génération, qui avait le record du monde avant sur 1500 mètres. Mmh. Il a fait 3,35 au 1500, 28,0 au 10. Enfin, il avait quelques bonnes références. Très bonnes références, même, je pense.
Très belle, ouais.
La pression que ça doit te mettre. Et du coup, quand tu t'y mets, c'est sûr.
Quand t'es plus jeune, mon père courait encore un peu. Il a fait des top 10, top 15 chez les masters au France de cross. Ouais. Du coup, ça me donnait envie de courir. J'ai commencé un an plus tôt, je pense, à 5 ans. J'avais très envie de courir. Après, c'est vrai que plus tard, il y a eu une pression un petit peu, mais quand t'es plus jeune, tu prends pas trop la tête.
Tu t'en rends pas compte. Ouais.
Sur tes souvenirs de jeunesse, quels sont les meilleurs? Est-ce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les Europes de cross par équipe, comme ça, aller chercher un podium, avec Alexis Miellet d'ailleurs à l'époque? Est-ce que ça fait partie des meilleurs souvenirs?
En 2017, c'était pas avec Alexis. 2019, je fais médaille avec Alexis.
Okay.
2017, c'était avec Louis-Gilles Havert, Antoine Sénard, c'était la génération en dessous.
Ouais.
J'étais plus vieux. Mais je pense que mon meilleur souvenir, en vrai, c'est ma première sélection. Je fais 7e au championnat du monde en U18 sur 1500 mètres. Et c'était en Colombie, du coup, expérience exceptionnelle. C'était,
vrai voyage, l'équipement, tout ça, quoi.
Ouais, quand c'est ta première sélection, t'as 16-17 ans. J'ai une grosse génération, du coup, même ceux dans d'autres disciplines maintenant font les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Du coup, même pour moi, de les revoir là alors que j'ai commencé avec eux, ça me fait un petit truc quand même.
Ça doit être particulier à vivre, ça, Johan, tu peux nous en parler aussi. Toi, tu n'as pas connu ça parce que tu as percé. Moi, j'ai toujours le souvenir de Johan Koval qui nous raconte quand tu débarques dans tes rassemblements de région et que toi, tu es le seul à avoir l'uniforme équipe de France. C'est pour ça que Yoko était fan de toi. Il disait, ça y est, lui, il y est, il est au plus haut niveau. Yanni, ça doit te faire bizarre de voir des mecs comme ça percer sur des mondes, sur des Olympiques, alors que tu fightais contre eux il y a quelques années, quoi.
Bizarre, non. En soi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Après, il y a des circonstances de vie qui font que,
oui, bien sûr,
que c'est compliqué. On n'a pas tous le même chemin. Après, c'est pas fini. Je suis encore jeune et j'espère pouvoir revenir. Mais tous ces gars-là, je me suis déjà entraîné avec eux et je sais ce que je vaux et je sais ce que je peux faire. Après, faut pouvoir le passer en compétition et il n'y a pas de raison que ça passe pas. En tout cas, je pense que je suis quelqu'un de nouveau et j'espère que, même sportivement parlant,
ouais, t'es frais encore.
Ça pourra m'aider.
T'as de belles années devant toi. Tout ce qu'on espère.
Merci.
Yodu, t'as le souvenir de ces premières sélections aussi? C'est un moment marquant dans une carrière, forcément.
Ouais, les premières sélections, c'est toujours un truc de dingue, parce que tu découvres. Et surtout, Yanni, il a eu la chance de découvrir ça sur des championnats du monde cadets à Cali, en Colombie. Donc effectivement, et en plus, une place de finaliste sur des mondes cadets, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans l'histoire de l'athlète français. Donc ça a placé le curseur du coureur. Voilà, après, c'est pareil. C'est vrai que moi, les Europes de cross, j'en garde un souvenir de dingue de ce moment-là parce que quand c'est les Europes de cross, t'es que entre demi-fondeurs. Et c'est vrai qu'il y a, il y a un état d'esprit différent que quand tu es avec le sprint, le saut, où c'est un peu plus mélangé, un peu plus dilué. Là, tu restes vraiment un peu cocon, un peu famille. Et les Europes de cross, j'ai souvenir de soirées ou de compétitions qui ont été mémorables. Donc, ça reste des moments à vie. Ouais.
Je ne sais pas si on en a déjà fait ensemble, je ne crois pas.
Non, Europe de cross. Peut-être que tu n'étais pas hier? Non, tu n'étais pas.
Non, je n'étais pas hier.
Non, on n'en a pas fait, ouais.
Surtout, nous, on connaît la personnalité des mecs qui t'entouraient. Ça devait être sympa, ouais, les veilles de course, Yanni, ouais, j'imagine, avec Jimmy dans la chambre ou avec Louis ou même Hugo, ça devait être dingue.
Bah, vu que moi, je m'entraîne avec Louis, et on se connaît depuis plus de 10 ans. On est très, très potes depuis plus de 10 ans. Et on était beaucoup ensemble. Et Louis, c'est quelqu'un d'un peu... je ne sais pas comment le décrire, mais c'est pas je m'en foutiste, mais il est vraiment chill. Il fait un peu ses petites bêtises, il fait rigoler tout le monde et du coup...
On l'a vu aux Jeux Olympiques.
Et du coup, très bonne ambiance, on était très potes avec les kinés. En fait, ce qui est bien aux Europe de cross, c'est qu'on est tous vraiment très potes. Avec les kinés, les coachs et les référents, on les connaît très bien parce qu'on les voit tout le temps.
Il n'y a pas d'esprit de concurrence entre vous, j'ai l'impression. C'est pas... non, on y va pour une médaille même par équipe, c'est-à-dire qu'on souhaite à l'autre une bonne performance.
C'est ça, c'était une concurrence, mais je pense une bonne. On s'est tous tirés vers le haut dès le début. Je me souviens de quelque chose que Jimmy m'avait dit en 2017. Du coup, on fait vice-champion d'Europe par équipe. Et Louis et moi, on fait 3 et 4. Louis fait 3, moi je fais 4. C'est Jacob Ingebrigtsen qui gagne.
Ah ouais.
Et les gars n'avaient pas encore fait de médaille individuelle. Et du coup, de nous voir à la télé juste avant que cours. Ça les a vraiment motivés parce qu'il y avait espoir. Il y avait Jimmy, Hugo, Momo El Bouadjadji, Miele, ouais. Lévis, grosse, grosse équipe. Et sur la course d'après, du coup, en espoir, Jimmy et Hugo font 1 et 2. Et au final, personne n'avait jamais fait ça dans notre génération. Mmh. Et Louis et moi faisons 3 et 4 et juste après...
On a des nouvelles de ce Jacob Ingebrigtsen?
Ouais, il a percé un peu vite fait du côté de la Norvège, mais
on est sûr,
des courses locales.
Ouais, d'accord. Très
genre
bien.
Des 10 km comme Bergerac, tu vois, sur pas des plus grosses courses.
Ouais. Lui aussi, il gagne à domicile. Ouais, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Allons-y sur l'événement marquant de ta vie. Malheureusement, ça dépasse le cadre du sport parce que on a eu peur même pour ta santé, pour toi tout simplement. Donc septembre 2023, tout bascule. Tu es admis aux urgences à Melun. Tu crains en fait une appendicite, hein, ce qui arrive à énormément de gens. Donc une énorme douleur à l'estomac. Est-ce que tu peux nous raconter la suite, Yann?
Je vais vous raconter juste un peu avant parce que pour moi, ça arrivait d'un coup comme ça. Je revenais de vacances, je monte à Font-Romeu du coup avec Jimmy et son groupe. J'étais invité au 1000 mètres expérience à Dijon de Alexis Miellet.
Ouais.
Du coup, je fais la route en transport avec mes affaires. De Font-Romeu à Dijon, c'est super long. Du coup, pour le retour, je me dis je remonte à Paris, je prends ma voiture et je redescends. À Font-Romeu quoi. Et au final je monte à Paris, je vais chez ma mère du coup et je suis pas redescendu. J'ai commencé à avoir de grosses douleurs abdominales.
C'était quoi comme type de douleur, Yanni, d'ailleurs?
Je saurais pas l'expliquer.
C'est dur à décrire. Ouais,
ouais, c'était j'étais plié en deux quoi. Mais ouais. Pour l'instant ça allait, c'était surmontable entre guillemets.
Okay.
Ma mère part au travail le matin, du coup elle vient voir si tout va bien pour moi. Je lui dis que la nuit était hyper compliquée, très très compliquée. J'arrivais pas à me rendormir. Vers 5h du matin, les douleurs ont commencé. Mmh. Et du coup, elle me prend un rendez-vous avec un médecin. Ensuite, le rendez-vous est à 11h, du coup ça prenait du temps. Je le rappelle, elle me dit appelle le SAMU. J'appelle le SAMU plusieurs fois. Ils me disent de prendre du Doliprane, du coup pas forcément peut-être plus que ça. Du coup je vais au rendez-vous à 11h, je vais voir un médecin qui me dit que j'ai des gaz, du coup que je vais devoir attendre 3-4 jours avec ces douleurs et que ça allait passer. Pendant la consultation je vomissais, j'étais fiévreux, c'était franchement très compliqué, mais elle m'a dit que j'avais des gaz et que ça allait passer. Je lui dis que je peux pas tenir 3-4 jours comme ça, mais bon c'est pas grave, de toute façon je vais devoir le faire. Alors je passe à la pharmacie plié en deux, les pharmaciennes me demandent ce que j'ai, je dis que j'ai des gaz soi-disant. Du coup, je retourne chez moi, Le soir arrive, bah là, je tiens la journée quand même. Et la nuit d'après, je commence à convulser chez ma mère. Du coup, j'essaye de l'appeler. Je dormais en bas, du coup, j'essaye de l'appeler. Elle ne me répond pas. Je l'appelle au téléphone, elle ne me répond pas. J'arrive à me lever, à ouvrir la porte de sa chambre. Et du coup, bah, de là, on va directement aux urgences à Melun. Désolé si l'histoire est un peu longue.
Ah non, non, mais au moins, on a tous les détails de tout ça. Et puis, en plus, c'est ce que j'allais dire. Et bah, Johan va pouvoir le confirmer. Mais comme vous, vous êtes programmé, vous faites du sport de haut niveau depuis vos plus jeunes années. Quand il y a une vraie douleur, vous le savez que c'est une vraie douleur. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'histoire non.
Et chez le sportif de haut niveau, généralement, le seuil de douleur, il est tellement haut.
Le seuil de tolérance à la douleur, il est très élevé.
Un 7 sur 10 pour un lambda, nous, c'est un 3 sur 10, tu vois. C'est.
Et du coup, je pense que j'étais un peu dans ça à me dire que j'ai l'habitude de souffrir et que bon, le médecin m'a dit que je vais devoir tenir. Et du coup, bah, je vais tenir jusqu'à que bah, je monte à plus de 40 de fièvre et que bah, ça commence à être très très compliqué.
Donc les urgences avec ta mère, et quand tu arrives là-bas, comment ça se passe alors?
Je suis admis aux urgences à Melun, comme je vous l'ai dit. Je suis assez rapidement pris en charge aux urgences pour me donner des calmants parce que je souffrais trop et ils l'ont vu et du coup. Je sais que d'habitude, on attend longtemps aux urgences. Là, je rentre assez rapidement. Sauf que bah, pour l'opération, j'ai attendu toute la journée. Du coup, ça. Pour eux, c'était une appendicite. Du coup, tout allait. Ouais. Mais au final, tout allait être pris en charge assez facilement et tout allait bien se passer. Sauf que j'ai eu une péritonite super rapidement au vu de mon appendice qui était infecté.
Qu'est-ce que c'est qu'une péritonite? Tu peux nous l'expliquer?
C'est quand ton appendice explose, entre guillemets, je crois que c'est ça.
Ah ouais, ok.
Et du coup, vu que mon appendice était infecté, et bah, l'infection elle s'est propagée. Et du coup, on m'opère une première fois sous célioscopie, du coup...
Mais le diagnostic était bon? C'était vraiment une crise d'appendicite?
Entre guillemets, oui, sauf qu'il y avait comment dire? Il y avait des facteurs aggravant, je dirais.
D'accord.
Sauf que ça n'a pas trop été pris en compte. Et le fait que je sois resté aux urgences aussi longtemps avant de me faire opérer...
Le fait d'attendre, ça a peut-être aggravé la situation, quoi, c'est ça?
C'est ça.
Ok.
Si ça avait été une appendicite et une péritonite lambda, ça aurait été bon. Et en fait, ils m'ont pris en charge comme ça. Ils n'ont pas pris en compte le fait que ma fièvre soit beaucoup plus élevée que mon taux de CRP, du coup. Le taux de CRP, c'est... comment dire, c'est la variation de ton infection au niveau du sang, c'est la variation infectieuse.
Ok, d'accord.
Et mon taux de CRP était super élevé. Je pense que quelqu'un, si on a plus de 5, c'est quelque chose de pas normal, c'est qu'on a quelque chose de pas normal dans le corps. Et moi, je suis monté à 800, très certainement.
Ah ouais. Et ils n'ont pas fait attention à ça, ouais.
Sur le coup, j'étais pas encore à 800, c'est mon max, mais oui, je suis monté très très haut et. Et ils ont pris énormément de temps à me prendre en charge. J'ai des souvenirs comme quoi j'attendais pour un scanner vers 11h, 11h30. Je suis arrivé aux urgences, il devait être 4h30, 5h. Et ils m'avaient donné des calmants du coup à 4h30, 5h. À 11h, j'attends pour un scanner. Ils me laissent dans le couloir, sauf que les calmants ne font plus effet. Et là, je pète un plomb. Je prends tout ce que j'ai à portée de main, je jette partout sur le mur. Dès qu'un médecin passe, je l'attrape par la blouse, je le serre contre moi pour lui dire de me donner quelque chose. Et au final, au bout de quelques minutes, t'as un médecin qui est venu avec une piqûre de morphine et qui me l'a planté dans le bras parce que j'avais déjà une perfusion au bras. Et du coup, bah, je fais mon scanner, je retourne dans ma chambre aux urgences parce que je n'étais pas encore admis officiellement à l'hôpital. Le médecin revient, je lui dis de plus jamais me laisser comme ça parce que j'ai jamais souffert autant et c'était très compliqué. Du coup, pareil, vu que l'opération arrive très longtemps, je commence à avoir des douleurs, mais il m'opère juste au moment où ça allait commencer à être très très dur et ils pouvaient rien me donner parce qu'avant l'opération c'est assez compliqué et du coup bah voilà, première opération, je me réveille un peu dans les vapes parce que bah, anesthésie générale et...
Ça te soulage un peu? Tu sens moins la douleur quand même
à ce moment là? Oui, ouais. À ce moment là je me suis dit bon ça y est, c'est fini, j'ai une appendicite, c'est réglé, bon c'est compliqué. Thierry vient me voir à l'hôpital Thierry Chauffin, mon entraîneur, c'est ça.
Réputé de Fontainebleau, notamment.
C'est ça. Ouais. Viens me voir à l'hôpital en disant bon, ça allait être un peu compliqué, que bah fallait que je prenne d'abord soin de ma santé, que l'entraînement on allait voir, mais que de toute façon ça allait pas être très compliqué. Il essaye de me rassurer à ce niveau-là et que.
Ouais.
Et voilà, du coup bah pour moi tout se passe bien, sauf que le taux de CRP continue à, après l'opération il a baissé, mais au bout de même pas 24 heures ça commence à remonter et. Et on me donne des antibiotiques qui ne font pas forcément effet. Du coup,
ça veut dire que l'infection est toujours présente, quoi. On n'a pas réglé le problème. Ouais.
J'ai toujours de la fièvre. Et, et le taux d'infection est toujours là. Du coup, on me laisse comme ça en me donnant des antibiotiques. J'ai un ou deux drains qui sortent de mon ventre pour essayer de vider le mauvais liquide qui est encore présent à l'intérieur du ventre. Du coup, c'est des tuyaux qui sortent un peu du ventre.
Il y a déjà un aspect traumatisant au-delà de la douleur, hein, de vivre tout ça, alors qu'au départ, tu rentres juste d'un meeting et tu te dis « je vais partir à Forum le lendemain », c'est fou.
C'est ça, surtout qu'avec une opération comme ça, je ne pensais pas. Juste une opération en anesthésie générale où on te touche à l'intérieur du corps, même pour remettre un caleçon, c'était très très compliqué. Ah ouais. Au tout début, on voulait me faire ma toilette. Sur la première opération, j'ai refusé, même si c'était très compliqué. Ouais. J'ai refusé, je me suis dit que j'allais me nettoyer tout seul. Je voulais tout faire tout seul, même si c'était très compliqué. Je voulais tout faire tout seul. Et du coup, au bout de 4-5 jours, on veut m'enlever un drain. Du coup, on m'enlève...
Ah, donc tu fais quasiment une semaine à l'hôpital déjà, là, pour te remettre
c'est
de ça.
Ouais, c'est ça. Je dois faire 3-4 jours.
Ok.
Pour une péritonite, ça peut durer une semaine, du coup.
D'accord.
Moi, à ce moment-là, j'étais impatient de sortir. Je demandais au médecin quand est-ce que j'allais sortir. Et au final, je sais que j'avais un peu de liquide noir qui sortait de l'orifice de mon drain, ce qui n'était pas normal. Enfin, ça sortait extérieurement au tuyau, okay, sur les côtés. Et le drain ne donnait rien, il n'y a rien qui se vidait. Du coup, il était potentiellement bouché, mais rien n'avait été fait à ce moment-là. Du coup, je ne sais pas si ça aurait dû l'être ou pas, mais en tout cas, rien sortait du drain. Du coup, tout était en train de se stocker à l'intérieur, quoi.
Est-ce qu'on te tient au courant au fur et à mesure? Est-ce que tu as des contacts réguliers avec les médecins? Est-ce que toi, tu te renseignes, je sais pas, sur Internet? Comment ça se passe?
J'ai la chance d'avoir un oncle qui est médecin. Du coup, il avait accès au dossier il donnait assez souvent des informations à ma mère concernant l'évolution de mon état. Après, oui, on te dit comment ça évolue sans vraiment te le dire. Enfin, t'es un peu dans le flou, surtout que j'avais l'impression qu'eux comprenaient pas trop. Après, de ce qu'on me disait au début, c'est qu'après une appendicite, ça peut arriver que on soit obligé de te réopérer. Et du coup,
L'appendicite, ça peut être très douloureux chez les personnes adultes. Hein.
Enfin, oui. Juste une appendicite lambda, c'est ce que j'avais mal au tout début. Et du coup, c'est ce qui m'a réveillé pendant la nuit et c'est ce qui faisait que j'avais mal, oui. Et du coup, on m'enlève ce drain-là et tout le liquide noir s'échappe par l'orifice du tuyau, quoi. Et là, pareil, douleur atroce. Je crie dans la chambre. Il y avait ma sœur et mon père avec moi. Je me souviens à ce moment-là, ma sœur est sortie en pleurs. Du coup, je commence à crier, sauf que vu que tous les médecins étaient pris et qu'à ce moment-là, on ne m'avait pas prescrit de la morphine, on ne pouvait pas m'en administrer. Et du coup, j'attendais pendant une heure et demie en cri, je criais.
Sans anesthésie, quoi. T'es resté.
On me donnait du doliprane, tous ces petits trucs-là perfusion. J'avais peut-être du tramadol, mais même le tramadol ne faisait plus effet.
Du coup, alors que c'est lourd, le tramadol.
Ouais. Et du coup, y a que la morphine qui pouvait un peu. Par moment, même si je sentais encore quelques douleurs, c'est la morphine qui faisait vraiment. Qui pouvait vraiment faire effet et qui faisait en sorte que j'ai le moins mal. Du coup, pareil, en cri, il y a toute ma famille qui débarque, une quinzaine de personnes, du côté de ma mère qui arrive. Tout le monde arrive d'un coup.
Là, tu me le racontes, ça fait un peu moins de 2 ans que c'est arrivé, c'était en septembre 2023.
Tu
as toujours ce traumatisme-là, au-delà de la douleur, c'est tous ces moments, les images qui te ressortent en flashback, je sais pas, ce liquide noir qui sort, la douleur extrême, le visage de tes proches, tout ça, tu l'as encore en tête?
Je vais te raconter après, mais en fait, ça a été très compliqué pendant super longtemps. Du coup, ces moments-là, précisément, pas forcément. Parce que j'ai eu des moments pires, en fait. Pas forcément, ça a été très compliqué, même quand je suis rentré chez moi. Ça l'est toujours aujourd'hui, moralement. Pas forcément des flashbacks de l'hôpital, mais plus une remise en question de manière générale.
D'accord.
Qui fait que c'est compliqué à vivre en ce moment, mais... je suis bien entouré, du coup, par rapport à ça. Voilà.
Pour reprendre le fil, donc il y a cette opération, la première, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a encore des problèmes, ce liquide noir, etc. Quelle est la suite alors? Comment ça se passe?
Mais ça peut arriver de ce que me disent les médecins. Du coup, le liquide noir sort quand on me retire ce drain. Du coup, un médecin vient me voir pour me dire « Je suis désolé, mais il va falloir qu'on te réopère. » Moi qui ne veux pas du tout parce que ces 4-5 jours étaient assez compliqués de se réveiller d'une opération comme ça. Je ne voulais pas repasser dedans. Me dire que je vais repas marcher, que ça allait être compliqué pendant quelques jours.
Mais t'as le choix ou pas vraiment?
Ah non, de toute façon, j'ai pas le choix. Du coup, je suis là à lui dire non, je veux pas. Il me dit, bah, de toute façon, c'est pour ta vie. Du coup, on est obligé. Du coup, on me réopère une deuxième fois. Là, par contre, je me réveille en réanimation. Et bah, avec déjà un peu plus de tuyaux. J'ai un tuyau qui sort par le nez. J'ai une sonde urinaire. Enfin, un peu compliqué. Je sais pas si à ce moment-là, j'ai la sonde urinaire, mais en tout cas, j'ai plus de tuyaux et je suis un peu plus dans les vapes. J'ai un souvenir de me réveiller en réanimation après cette deuxième opération et de leur d'appuyer sur le bouton pour les appeler en leur disant qu'ils m'ont oublié un tuyau dans le nez après l'opération, alors que m'explique que non, c'est une sonde gastrique. Mais moi, je leur dis, mais non, normalement, il faut m'enlever le tuyau, je ne dois pas avoir de tuyau. Et au final, bah, je me retrouve avec des tuyaux, je suis un peu pareil dans les vapes. Je n'ai pas mon téléphone parce qu'ils m'ont ramené en vitesse. Du coup, je sais que ma mère cherchait après moi, ma famille cherchait après moi, mais ne savait pas dans quel état j'étais.
Là, tu es toujours à Melun.
Là, je suis toujours à Melun.
Et ensuite, tu vas être transféré, hein, Yanni.
C'est ça, je vais être transféré parce que, rebelote, la CRP ne descend pas et la fièvre ne descend pas non plus. Du coup, là, on laisse une semaine passer. J'ai encore des drains, mais cette fois-ci, le liquide sort encore plus par les orifices autour du tuyau. Du coup, moi, je leur dis que c'est pas normal parce que j'ai à peu près la même chose que ce que j'avais avant.
Bah ouais.
Sauf que pas grand-chose est fait. Je me réveille un matin. Enfin, je refais un scanner, du coup, à la demande de ma mère, ouais. Parce que je n'en avais pas eu pendant une semaine. Du coup, je refais un scanner à la demande de ma mère. Au final, je me réveille le lendemain et une aide-soignante me ramène des habits de bloc. Bah, du coup, pour me faire opérer, elle me dit, mets tes habits de bloc. Et moi, je lui dis, mais comment ça Comment ça, je mets mes habits de bloc, je ne veux pas me faire opérer une troisième fois. Et ils me disent, sur ton truc, sur ton dossier, on doit te opérer une troisième fois. Du coup, j'appelle mon oncle, j'appelle ma mère, très énervé, en pleurs, en leur disant que moi, je ne me fais pas opérer une troisième fois, surtout ici. On m'opère deux fois et...
Ah oui, et le problème n'est toujours pas réglé, bien sûr.
C'est ça, du coup, mon oncle fait en sorte que je sois transféré au plus vite. On fait une demande d'abord à Pompidou.
Ah, c'est une demande familiale qui te permet d'être transféré alors.
Oui, c'est mon nom qui appuie le fait que je dois être transféré, que de toute façon, je ne me ferai pas repérer ici. Le chef de service était assez compréhensif de manière générale. Après, je n'ai pas de réels souvenirs et de bons souvenirs de comment ça s'est passé à Melun, en tout cas.
Okay.
J'étais un peu perdu dans tout ce qui se passait, ça courait un peu de partout. Je voyais ma famille très mal, moi, je ne me rendais pas forcément compte.
Ah oui, puis tu es un peu dans les vapes, forcément.
C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Donc, transfert à la Pitié-Salpêtrière, donc hôpital parisien.
C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà deux semaines que j'ai rien mangé.
C'est ce que j'allais te demander. Tu te nourris pas, tu t'hydrates juste par des sondes, en fait.
C'est ça, parce que de base, il y a un protocole pour te redonner à manger sur plusieurs jours. Et dès que j'arrivais au premier protocole où tu pouvais boire de la soupe, je me faisais réopérer. Du coup, fallait repasser par le fait de ne pas manger. Du coup, même boire, je pouvais pas boire. Du coup, même si on est hydraté au niveau des veines, cette sensation de désaltération, je sais pas si
c'est
comme ça,
c'est ça.
N'existe pas réellement. Du coup, c'était assez compliqué. Du coup, c'est ça, je perds 10 kilos en 10 jours en fait.
Mais 10 kilos alors que t'es affûté, puisque t'es encore
Yanni,
un athlète.
Il est pas gros.
C'est ça, déjà.
J'avais de la chance de revenir de grandes vacances, du coup, j'avais pris un peu de poids, mais je suis très vite descendu à moins de 60 kilos. Au début, mais c'était que le début, du coup. Pour moi,
1m73, on précise.
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était la fin et que je me fais transférer. Même après ça, j'étais content de me faire transférer parce que je me suis dit, je vais dans le plus gros hôpital de France, concrètement, et tout va mieux se passer. Sauf que je savais pas ce qui allait m'attendre là-bas.
Et alors, qu'est-ce qui t'attendait alors là-bas?
Du coup, j'arrive aux urgences là-bas. On me refait un scanner parce qu'il... En fait, le scanner a été fait le vendredi, je crois, et le transfert a pris du temps à se faire parce que les sorties en hôpital, ça se fait pas le dimanche. Et du coup, fallait attendre le lundi pour pouvoir me trouver une place.
Jusqu'au bout, quoi.
À la Pitié, du coup, j'arrive à la Pitié, on me refait un scanner et je me fais réopérer. J'arrive dans la journée, le temps de me refaire un scanner, et je me fais opérer le lendemain matin très tôt. Du coup là je subis une laparoscopie, du coup on m'ouvre tout l'abdomen et avant on m'explique que l'opération va être très lourde et que potentiellement il pouvait avoir de lourdes conséquences. On est obligé de te dire tout ça avant une opération pour te...
C'est quoi des plus lourdes conséquences? Ta vie est en danger, du coup?
Ma vie peut être en danger, après le pourcentage est assez faible, mais on peut me couper des... partie d'organes, c'est possible s'ils sont infectés. Je peux me réveiller avec une iléostomie, du coup une poche gastrique aussi, que ce soit soit à vie, soit juste pendant quelques mois, mais ça peut être à vie.
Oh là, mentalement, coup, là, quelle horreur.
Surtout que moi, j'ai eu tous les pires trucs depuis le début. Du coup, je disais à ma mère,
je vais faire le grand chelem, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais.
Et ma mère me dit non, essaye de me rassurer en me disant que ça allait bien se passer, même si je voyais que. Enfin, je le voyais à la tête de mes proches quand j'ai des proches qui venaient et qui éclataient en pleurs en me voyant. Surtout après cette troisième opération, je commence à me rendre compte de ce qui m'arrivait. Du coup, je me fais opérer. Je pense que l'opération a duré entre 8 et 9 heures. Du coup, on m'a coupé de l'intestin. Ça aurait pu être plus grave. On m'a dit que je suis passé à peu de choses d'avoir beaucoup plus de soucis. Du coup, je me réveille quand même avec une iléostomie, une poche que j'ai eue pendant 3 mois. Et je me réveille branché de partout, là, par contre, pour le coup.
Mais t'es sorti d'affaire au moment où tu te réveilles ?
Pas encore.
Ah, pas encore.
Non. En gros, normalement, tout devait être bon, sauf que, pareil, c'est là où j'ai eu le pic de fièvre. Je suis monté à 41,8, je crois bien. 41, en tout cas.
OK.
J'ai commencé... En fait, après cette opération, ça a été bien pendant 4-5 jours, je dirais. Et ensuite, pareil... le taux d'infection est remonté.
Tout est remonté.
Tout ça, c'est de la mutation de bactéries, hein, c'est ça ?
En gros, c'est ça. J'avais une bactérie qui faisait que muter. Tout allait bien un moment, mais elle mutait et du coup, ça repartait. Du coup, les antibiotiques faisaient plus effet. Du coup, il fallait retrouver des nouveaux antibiotiques. Mais à la pitié, vu que c'est. C'est aussi une grande école, c'est la faculté de médecine de la Sorbonne. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-bas. Et du coup, il y a des très bons infectiologues et ils ont pu. Trouver au bout d'un moment un
antidote.
Comment dire ? Oui, un bon antibiotique, quoi. Ouais. Mais je me fais réopérer une quatrième fois à la pitié. Ils ont dû me ponctionner. Ils ne pouvaient plus me faire d'anesthésie générale parce que j'en ai eu 3 en 13 jours. Du coup, pour mon corps, c'était assez compliqué. On m'a dit que j'aurais pu tomber dans le coma avec toutes ces opérations. Mais le fait que j'ai un bon physique de base et le fait que je sois sportif, ça m'a quand même
ça, c'est sûr.
Bien aidé. Pour essayer de quantifier ça, en dormant après la grosse opération, j'étais autour des 140 pulses.
En dormant ?
Oui, c'est ça.
Alors qu'habituellement, j'imagine que tu étais en dessous des 40,
ouais.
Quoi.
Ouais, c'est ça, en gros, je suis à 15 à l'heure.
À 140 pulses, il est à 15-16 à l'heure.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Donc, tu as subi 4 opérations en moins de 15 jours.
La quatrième est arrivée un peu plus tard. Je dirais en 3 semaines. En gros, j'ai eu 3 grosses opérations en 10-12 jours. Avec la grosse anesthésie générale de 8-9 heures.
Ouais.
Et ensuite, j'ai eu la quatrième opération où on m'a ponctionné avec de grosses aiguilles dans le ventre tout le liquide qui restait. Et okay. Du coup, on a fait des tests là-dessus. Et là, ils ont réussi à trouver un antibiotique au bout de, je dirais, un mois et demi. Mais du coup, pendant quasi un mois, j'ai rien mangé, quoi. Du coup, ça aussi, c'était assez compliqué. Et en me réveillant de la grosse opération, je ne pouvais pas boire non plus. Du coup... on mettait de l'eau sur des compresses qu'on m'imbibait. Enfin, on m'imbibait ensuite les lèvres avec ces compresses-là pour que je puisse un peu boire, quoi.
Comment se passe ensuite la remise en route ? Parce que là, tu es tiré d'affaire. Tu restes combien de temps à l'hôpital
pas
au total ?
Pas encore tiré d'affaire à 100%. Non, on me dit que c'est mieux, ça va dans le bon sens, mais ça peut être compliqué. Du coup, je suis suivi très régulièrement à ce moment-là parce que ça peut repartir comme ça. Et même ma mère, je me souviens, je suis pas rentré chez moi, je dormais chez ma mère à ce moment-là, parce que de toute façon, j'étais pas autonome, je pouvais pas me faire à manger. Je suis rentré, j'ai dû rester un mois et demi, un peu plus peut-être, à l'hôpital. Au bout de ces quasi 2 mois, je rentre chez moi, mais je suis hospitalisé chez moi. Du coup, j'ai des infirmières qui viennent tous les jours pour gérer la poche dans un premier temps. Et j'avais quelques trous un peu partout dans le ventre.
Donc gérer les pansements, nettoyer, désinfecter. Ouais.
C'est ça, faire des prises de sang parce qu'il fallait que j'en fasse assez régulièrement pour voir si tout allait bien à ce moment-là.
Ouais. Quel est le moment le plus dur moralement ? C'est toute l'hospitalisation pendant quasiment 2 mois ? C'est le retour à domicile avec toujours cette aide ? Ou c'est la suite encore dont on va parler d'ici quelques minutes ?
À ce moment-là, c'est le retour à la maison parce que quand tu es à l'hôpital, même, malgré tous ces problèmes, tu es à l'hôpital, du coup, entre guillemets, normal d'être dans cet état-là. Surtout que j'avais une iléostomie, c'est une poche qui... Enfin, mon intestin ressortait sur le côté et j'avais une poche. Tout ce que je mangeais ressortait comme je le mangeais, en fait. ça n'avait pas le temps d'être digéré. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai perdu énormément de poids, parce que peu importe ce que je mangeais, ça ressortait directement dans la poche. Par exemple, je mange des coquillettes, je les mâche pas bien, bah, ça ressort en coquillettes, quoi.
Ah ouais, tu les vois dans la poche.
C'est ça. Mon Dieu. Du coup, assez compliqué, cette poche qu'il faut vider assez régulièrement pendant la journée. Quand tu dois le faire tout seul, bah, tu te rends compte que... Ouais, en vrai, c'est très compliqué essayer de vivre normalement. Les médecins me disaient essayer de sortir un peu, mais déjà, juste marcher, c'était très compliqué. J'ai essayé de sortir, mais sortir avec une poche qu'il faut que j'essaye de dissimuler...
C'est un cauchemar, hein. Johan, c'est un cauchemar. Franchement, c'est tu vois, on parle souvent de faits de vie comme ça, d'épreuves de vie à traverser. Et là, c'est une descente aux enfers, Yannis. C'est terrible ce que tu nous racontes.
Oui, en gros, je suis passé à être impatient de sortir de l'hôpital et que ce soit fini. Je pense plus à rien, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu survis, quoi.
Ouais, en gros, c'est ça. Les jours passent. Je fais comme je peux. Il y a des jours où je pète les plombs, je casse tout. Des jours où ça va un peu mieux.
Ça va mieux.
Des jours où je me sens assez, entre guillemets, bien, sans vraiment l'être, parce que bah, tu l'es jamais vraiment.
On le sent depuis le début, mais le soutien de tes proches, c'était primordial. J'imagine le rôle de ta mère dans tout ça. Ouais, même ton oncle qui t'a aidé, ta sœur, tu nous en parlais, ton papa. Ça te permet de tenir quand même et de résister?
En vrai, j'ai eu cette chance-là, que ce soit à l'hôpital et après, bah même les gars, Louis est venu,
Louis Gilavert,
du coup, est venu, ouais. Mehdi Bellad, j'ai passé, bah même Bérénice Cléhémer l'est passé, Anaïs Bourgoin, Jimmy, ouais. J'ai eu énormément de gens qui sont passés. J'ai une très, très grande famille des deux côtés. Du côté de ma mère, ils sont 9 frères et sœurs, et du côté de mon père, 11, du coup. J'ai une très, très grosse famille, du coup, ça passait tout le temps en permanence. Des fois, j'étais obligé de dire que bah, je préférais que personne vienne.
Rester solo.
Bah, y a des moments où j'étais sous morphine allongé, ils étaient tous là dans la chambre à eux parler. Moi, ça me faisait du bien de les écouter un petit peu parler.
Voilà, d'être un peu spectateur de tout ça. Ouais.
C'est ça, mais oui, des fois, je pouvais vraiment. Bah, je pouvais pas parler, quoi, du coup.
J'imagine que le sport est clairement mis de côté à ce moment-là, Yannick, que tu y penses plus du tout.
Et bah, je sais même pas si je vais réussir à recourir. En réalité, je savais pas trop comment ça allait se passer, parce que bah, j'ai perdu tout mon muscle. Du coup, niveau cardio, ça va pas. Niveau musculaire, ça va pas. Dans la tête, ça va pas. C'était vraiment pas l'objectif principal, en tout cas. Ouais, je me prenais pas trop la tête avec ça. J'essayais de vivre, entre guillemets, et de prendre les jours comme ils venaient. Et tout simplement, en vrai, je pensais pas trop à ça.
Quand est-ce que tu vois le bout du tunnel et que ça y est, tu commences un peu à te projeter alors ?
Oh, ça a été très long en vrai. Je sais pas trop, parce que là, j'ai l'impression d'y être encore dans ce tunnel, entre guillemets. Du coup,
Il y a eu des étapes quand même. Là, tu reprends la course,
c'est ça,
tu t'entraînes, tu as fait des crosses.
En vrai, c'est mieux et c'est sûr, ça a beaucoup évolué. Mais oui, je pense quand j'ai enlevé la poche. J'ai enlevé la poche le 10 janvier.
Okay. Déjà, 2024
Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, la première opération, c'était le 26 septembre et la dernière, le 10 janvier.
Ok.
Du coup, oui, quand j'ai enlevé la poche, en vrai...
T'enlèves la poche, tu retrouves une vie à peu près normale.
C'est ça. Bon, il y a quand même cette cicatrice qui est très grosse, parce que la poche était quand même assez énorme, qui me faisait mal. Mais le fait de ne pas devoir se lever du canapé deux fois par heure pour aller vider la poche, déjà,
ouais, c'est sûr. Ouais.
C'était un soulagement et oui, je pense que c'est à partir du moment où j'ai enlevé la poche que je me suis senti mieux.
On a senti le soutien des athlètes. Il y en a certains que tu vas voir d'ailleurs aux Jeux de Paris en 2024, bah, qu'on a reçu ici d'ailleurs, qu'on adore. Anaïs Bourgoin qui a été une des révélations. Louis Gilavert, on l'a vu aussi engagé sur le 3000 steeple. Les voir comme ça à Paris, ça t'a donné de l'espoir? Ça t'a fait plaisir de voir tes potes comme ça engagés sur la plus belle compétition au monde à domicile? Tu l'as bien vécu, ça?
En réalité, ça a été très compliqué parce que, comme disait Johan, j'ai jamais été sur le très haut du panier pour pouvoir réaliser ces sélections, mais ça se joue à pas grand-chose.
Ouais,
et du coup,
t'es pas loin quand même.
Bah,
quoi.
Je vais donner un exemple, comme un gars comme Maël Gouillette, par exemple.
Ouais.
Qui fait 3,32 je crois bien cette année-là, qui était déjà très bon, mais qui, enfin, c'était pas l'un des favoris à la sélection olympique, et au final fait 3,32 cette année-là. L'année d'avant, il y avait énormément de monde sur 1500, cette année-là beaucoup moins. Il fait 3,32, il prend sa chance à 100% et au final il va au jeu, et voilà, ça peut arriver à n'importe qui à un certain niveau. Et du coup, oui, c'était plus le fait de ne pas pouvoir défendre mes chances, même si, la sélection olympique était loin d'être acquise, et j'en étais conscient, mais de même pas pouvoir être là pour essayer de défendre ses chances, ça a été plus compliqué qu'autre chose. C'est ça. Bah, aux Jeux Olympiques, concrètement, j'ai regardé que les courses de ce que je connaissais très bien, quoi.
Ouais, voilà. Sinon, t'as éteint la télé, quoi. Tu voulais pas regarder les épreuves de la télé.
J'étais pas en France. Je suis parti en vacances. C'était assez compliqué de le vivre. Pas par rapport au fait que j'ai pas participé, mais par rapport au fait que j'ai pas pu défendre mes chances. Et...
Oui, voilà.
Oui, c'est encore pire.
Ouais. C'est que au moins, quand tu participes, tu tentes ta chance, t'es pas sélectionné, au moins t'as tout donné. Mais là, tu te dis que t'as cette frustration qui est dure à évacuer, quoi.
C'est ça. Je trouve que ça appuie encore plus le fait. Comment dire, des complications de tout ce que j'ai subi, c'était encore plus la faute de ce que j'avais subi et du coup oui, c'était assez compliqué de vivre ça.
T'as quelques soutiens, hein. Nos amis du TRC te soutiennent en termes d'équipement aujourd'hui, voilà, on essaye de t'aider à fournir tout ce qu'il faut, les baskets, les équipements et tout. Il y a le club de Fontainebleau qui t'aide parce que t'as rejoint le groupe d'entraînement, c'est pas ça Yanni, non ?
Avec le TRC c'est différent, oui j'ai quelques aides quelques fois, j'ai rien de concret avec eux, c'est un groupe de potes que voilà. Je kiffe et je kiffe ce qu'ils font sur leur plateforme et du coup... j'ai quelques petits messages des fois. VK qui est, je pense,
Vincent Camaret,
un peu le chef, qui est un peu le chef du groupe, qui m'envoie des petits messages pour savoir comment ça va et si j'ai besoin d'une paire ou quoi. Il m'envoie quelques petits trucs quelques fois comme ça. Et c'est
il va mal le vivre, cher Perron, que tu dis soit VK le chef. Non, c'est la guerre des chefs.
Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est le gars avec qui. C'est le gars que je connais le mieux. J'ai moins eu d'interaction avec Charles. Même si c'est un gars que
non, mais t'as raison, le vrai chef, c'est VK, on le sait tous.
Ouais, il est plus sympa que Charles.
Non, mais Charles est cool aussi. Et c'est avec lui que j'ai préparé l'événement du 10 km de Paris. On avait fait une petite vidéo avec eux et c'est avec Charles que j'ai échangé sur ça parce que Charles est sur Paris.
Ouais.
Du coup, c'est plus simple. Mais j'ai quelques petits soutiens comme ça. J'ai mon club, notamment le FCVO. Qui m'a gardé, j'ai un contrat avec eux financier et qui m'a gardé, même si je courais pas cette année-là, j'ai gardé le même contrat.
Ce qui est beau d'ailleurs, parce qu'ils étaient pas obligés de faire ça.
C'est ça, c'est ça. Mais c'est des gars, c'est un club, j'y suis depuis 10 ans maintenant, qui est beaucoup vu comme, vu que c'est l'un des plus gros clubs français, qui est beaucoup vu comme une usine entre guillemets, mais c'est pas du tout ça. Je trouve que c'est très humain et ils l'ont prouvé là encore une fois.
Ils l'ont prouvé avec toi, ils l'ont prouvé dans l'aide qu'ils ont apportée à Megdes Woldu, qui est recordman de France du marathon et du semi-marathon, et qui a été accueillie bras ouverts à l'époque lorsqu'elle arrivait en France.
Et qui est française, notamment grâce à eux maintenant.
Évidemment, avec toutes les démarches administratives et tout, bien sûr, t'as raison. C'est important de le rappeler.
Et c'est un très gros club, mais la plupart des athlètes de ce club viennent de la région ou viennent du département, et ils sont là à essayer d'aider les jeunes. Ils préfèrent avoir des jeunes qui viennent de chez eux plutôt que d'aller les chercher partout, même s'il y en a quelques-uns et que tu as quelques étrangers, forcément, pour les interclubs, on en a besoin, mais voilà.
C'est quoi ta vie aujourd'hui, Yanni ?
J'ai repris l'entraînement... J'ai repris l'activité physique assez tôt, après toutes ces opérations-là, mais c'était très compliqué. J'arrivais à courir quelques... Des fois, je courais qu'une fois par semaine, des fois, je courais pas après pendant 3 semaines. J'étais très, très loin. Le souci, à ce moment-là, c'est que par rapport au niveau que j'avais, même si je ne devrais pas, je suis beaucoup à comparer.
Ah oui.
Bah là.
Que ce soit au niveau des pulsations ou au niveau de la vitesse. Pour donner un exemple, le premier footing que j'arrive à faire, entre guillemets, j'avais fait quelques fois des marches-courses avant, mais je n'avais pas forcément de comparaison à faire avec ça. Mais j'ai fait un premier footing, ça devait être en mars, je crois, début mars. J'ai fait 4 km à 50 au kilo et je devais être à 165 pulses.
Ah, mais c'est normal, tu repartais de plus loin que zéro, donc forcément que c'est.
Et du coup, c'est ça, du coup, y a eu le phénomène de surcompensation après tout ça, j'ai pris énormément de poids après l'hôpital et la poche. Enfin, j'ai tout repris en plus. J'ai perdu en tout, je pense, 19 kilos à l'hôpital. J'ai dû perdre 18 ou 19 kilos et j'ai tout repris en gras et du coup, par rapport à ça, ça a été très compliqué. Du coup, j'ai repris l'activité physique. De mars à l'été 2024. Je suis parti à Font-Romeu avec Jimmy, pareil, qui m'a proposé de l'accompagner sa prépa olympique. Il y avait Bastien Gousteau notamment avec nous, qui préparait les Jeux. Et du coup, moi, ça m'a permis de me remettre dans un contexte d'entraînement de haut niveau, même si je ne l'étais pas et que je ne m'entraînais pas avec eux, je ne m'entraînais pas tous les jours.
Tu te replongeais dans l'état d'esprit et l'atmosphère.
C'est ça. Mais bah, je suis parti 3 semaines en stage avec eux, je suis redescendu, je me suis pas entraîné entre guillemets. Ouais. J'ai pas fait d'activité pendant 3 semaines, 1 mois. C'était très compliqué de garder
une motivation.
Ouais, c'est ça. Une motivation, et physiquement c'était pas possible. J'étais trop fatigué, c'était impossible. Je me suis dit que je me souviens d'une fois où je suis parti marcher quelques kilomètres avec mon père et je me suis dit mais comment je vais faire pour faire une sortie de 20 bornes? Impossible.
Après c'est étape par étape, c'est sûr. Oui, c'est il faut laisser du temps de relever la tête. Il y a eu des bonnes nouvelles quand même. Tu as repris les crosses et tu as participé aux inters avec ton club de Franconville et ça s'est bien passé.
Ça a été bien après. Ouais. Entre-temps, j'ai eu des moments où j'ai voulu arrêter l'athlète. J'ai voulu arrêter plus que ça même. Ça a été très compliqué. J'ai eu des suivis psychologiques, psychiatres et psychologues parce que je veux faire peur à personne, mais ça a été très compliqué mentalement.
Avec tout ce que tu as traversé, c'est compréhensible aussi, hein, bien sûr.
Et du coup, on remet en question la vie, entre guillemets.
Ouais, bien sûr.
Et ça a été très compliqué à ce moment-là.
Tu es encore dans cette étape-là, parfois, dans les moments difficiles, ou ça y est, tu n'y es plus?
Ça m'arrive encore. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas totalement sorti de...
Ok. Tu es toujours suivi psychologiquement, d'ailleurs?
Oui, je suis toujours suivi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je dis que j'en suis pas totalement sorti, oui. Et du coup, je disais, j'ai repris du coup l'entraînement avec le groupe que à partir de octobre 2024. Où là, d'un coup, je sais pas comment, je me suis dit allez, je reprends avec le groupe à Fontainebleau. Et je suis revenu alors que de base, je voulais tout arrêter. J'ai appelé mon père pour lui dire que j'arrêtais. Et je reprends avec le groupe en octobre et je me rends encore plus compte du chemin que j'ai à parcourir à ce moment-là. Et voilà.
Il aurait été touché 24e au France de cross. Hein.
Eh oui, quand même, c'est après, pour ça. Oui. Voilà.
Du coup, ça se passe plutôt bien au niveau de la motivation. Vu que Mehdi Belhadj se fait mal la même année, il se fait rupture du tendon d'Achille. Du coup, on est à peu près dans le même...
Dans le même cycle, oui.
C'est ça, et du coup, on reprend un peu ensemble. Il est quand même un peu en avance sur moi, mais on reprend un peu ensemble. Et c'est cool de pouvoir me comparer aux petits jeunes qui, au fur et à mesure du temps, je passe devant et je rattrape le groupe de devant. Et ainsi de suite. Et du coup, je pars à Cap-Breton en décembre 2024. Et c'est vraiment à Cap-Breton que je sens que je reviens.
Ça revient, quoi. Ouais.
On est vraiment bien suivi là-bas, que ce soit au niveau de la muscu ou de la prépa plus cardio. On a de bons kinés, de bons prépas physiques. Et franchement, tu t'entraînes de 8h30 jusqu'à 17h. Tu n'as quasi pas de pause dans la journée.
Et là, tu as rebasculé en mode athlète de haut niveau, donc c'est parfait.
C'est ça, ouais, ça m'a vraiment remis dans un contexte où je m'entraînais moi deux fois par jour, quasi tous les jours. Et du coup, je fais ça là, je reviens, je fais une petite séance test pour voir avec mon coach comment ça va, comment tout va. Et au final, le directeur technique de mon club m'appelle en me disant est-ce que ce serait cool que je fasse les inters pour qualifier l'équipe. Et comme ça, j'y vais.
Pam, quatrième.
Et pam, ça pète, bravo.
Ouais, quatrième Olifa.
Quatrième de la course, deuxième français, et bravo. Au final...
24e en France, ouais.
C'est ça.
On est touché, Yanni, on est content de te mettre en avant, parce que c'est une belle histoire. Yodu, ça doit te faire bizarre, parce que c'est un peu, c'est pas vulgaire, mais c'est un peu un de tes petits, quoi. C'est des gamins que tu vois arriver, qui passent des épreuves de vie comme ça, c'est dur à entendre, hein, c'est sûr.
Ouais, c'est dur, et puis surtout que... Enfin, moi, je m'en étais pas rendu compte parce que, tu sais, moi, Yanni, on se connaît vraiment on se croise en stage et après, oui, tu vois Yanni que sur les réseaux, tu vois,
bien sûr.
On n'est pas non plus assez proche pour avoir des nouvelles. Et moi, je savais pas qu'il lui était arrivé tout ça. Et un jour, on m'apprend ça, on me dit, tu sais qu'Yanni, il a été à l'hôpital pendant plusieurs semaines, il a failli y passer et tout. Je dis non. Et du coup, je lui avais écrit sur Insta pour lui souhaiter un bon retour et un bon rétablissement et tout ça. Et c'est dingue comment la vie, jour au lendemain, elle peut te... Tu te rends compte, le gars, il est en stage à Font-Romeu, il part à une compète, il revient et d'un seul coup, sa vie bascule. Et là, on est 2 ans après et tu vois qu'il est au bout du tunnel, mais que voilà, ça va le marquer à vie. Et tout à l'heure, on parlait de la différence. Des fois, c'est des opportunités qui s'ouvrent pour atteindre le haut niveau ou pas. Mais là, Yanni, lui, il a failli carrément y laisser la vie. Donc, il faut qu'il soit patient et qu'il revienne juste pour kiffer. Et il fera encore des perfs extraordinaires, parce que 24e au France de cross avec tout ce qu'il a vécu et en 4 mois d'entraînement, ça prouve la qualité du bonhomme. Donc il faut qu'il garde confiance en lui. Ouais.
Il faut que tu sois fier de ce que tu fais, du chemin que tu as parcouru, Yanni.
C'est ça. C'est ça. Je rebondis sur ce que Yo a dit. Il y a 35% de taux de mortalité quand même, ce que j'ai eu, et c'est 54% de taux de mortalité à partir de 50 ans. Du coup, je m'en rends encore plus compte et je me dis que
t'avais le une corps chance humain sur trois d'y passer, quoi.
C'est ça, entre guillemets. Et je me dis que le corps humain est incroyable et je vois le chemin que j'ai parcouru là, même si très court, mais.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Il y a des échéances qui t'attendent. Tu vas peut-être refaire un peu de pacing, un peu de lièvre sur les meetings d'été, c'est ça, Yannick ?
C'est ça. J'ai envie de renouer avec la compétition sur piste comme ça parce que c'est pas une course que je fais directement pour moi et du coup l'effort est moins important et moins compliqué. Du coup, je préfère retourner sur ça d'abord, me faire un peu d'argent forcément que c'est plus compliqué maintenant, même si je fais tout pour m'en sortir entre guillemets. Et voilà, du coup un peu de pacing, après quelques compètes sur piste, voir où j'en suis et si je peux me qualifier aux élites, ce serait incroyable. Après j'y pense pas trop pour l'instant, je m'entraîne et je verrai bien comment ça va se passer.
Non, c'est un beau témoignage. En tout cas, on le savait que l'histoire était forte. Quand elle est racontée, on prend vraiment une claque. Donc voilà, Yannine, on espère que tout va bien se passer pour toi, que les jours seront beaux, les jours qui arrivent, et que tu vas reprendre du plaisir. Tu vises des distances un peu plus longues, je crois, d'ailleurs. Tu veux peut-être aller sur 5K, 10K, non ? C'est pas ça ?
J'ai fait un peu de 5000 avant, mais oui, j'ai envie de revenir sur 1500 là pour me refaire un peu plaisir sur ma distance de prédilection de base. Mais oui, j'ai envie de faire de la route et aller chercher du plaisir ailleurs. Renouer avec le grand public aussi, ça c'est vraiment cool. Et sur la route, je sais pas s'il y a une discipline dans l'athlé où on retrouve plus ça, je pense pas. Du coup voilà.
Tu veux pas venir sur un marathon avec nous?
C'est un peu long le marathon pour l'instant, peut-être plus tard.
Mais...
un peu de 10, un peu de semi déjà, ce serait cool de faire un semi parce que j'en ai jamais fait pour moi réellement. Du coup,
J'ai eu les chronos en 1h11, alors si c'était pour les autres.
C'était pour les autres.
Il faisait pace.
Je faisais pace pour Margot Siriaki.
Margot, bien sûr, qu'on salue, notre ami des RMC Running. Bon, Yannis, c'était passionnant de t'écouter. Allez le suivre sur les réseaux parce que ça, c'est vraiment un exemple.
Allez
suivre également les vidéos qui ont été réalisées par le TRC parce qu'on t'accompagne de l'intérieur et le témoignage est très fort, donc n'hésitez pas. Et reposter tout ce qui s'est passé, parce que ça peut inspirer d'autres personnes, pas forcément des sportifs de haut niveau, mais ce sont des histoires de vie qui sont toujours inspirantes et motivantes. Et justement, on voulait profiter de cet épisode pour mettre en avant une autre belle initiative. On a reçu ce témoignage sur nos différents réseaux sociaux et on voulait mettre en avant Mika qui est avec nous. Salut Mika !
Salut, salut !
Mika, ravi de t'accueillir dans RMC Running. Je précise un peu ton profil. Tu es un passionné de course à pied. Tu cours depuis seulement 5 ans. Tu t'es mis à la course suite à un événement tragique, malheureusement le décès de ta maman. Et c'est devenu un exutoire la course à pied, mais tu as voulu profiter de cette nouvelle passion pour mettre en avant des causes nobles, notamment le soutien de personnes touchées par une maladie qui fait beaucoup de mal, la leucodystrophie, et notamment une petite fille qui s'appelle Mila. Hein. Tu peux nous en parler ?
Ouais, exactement. Malheureusement, tout à fait, j'ai commencé à courir il y a 5 ans et du coup, j'avais besoin vraiment d'extérioriser ma peine. J'étais vraiment au fond du trou et j'ai trouvé la course à pied qui m'a fait un bien fou. Mais tout de suite, j'ai eu envie de continuer à gravir et à accumuler les kilomètres. J'avais vraiment besoin de faire beaucoup de kilomètres et d'aller au fond de moi-même, de chercher la difficulté. Et donc, j'ai commencé à courir de plus en plus et très très vite, j'ai eu envie aussi d'associer la course à pied à la solidarité. Donc aujourd'hui, je cours pour une petite fille qui s'appelle Mila, qui est incroyable, qui malheureusement ne peut pas marcher, elle ne peut pas parler, elle a atteint de la leucodystrophie, une maladie très rare et très lourde. Et du coup, voilà, sa maman, c'est très compliqué avec les frais, il n'y a pas très très peu d'aide. Donc aujourd'hui, voilà, je cours pour elle, je cours pour l'aider à financer une semaine en Espagne dans une clinique spécialisée pour qu'elle puisse se soigner et continuer un petit peu à avancer.
Mila a 8 ans, hein, je le précise.
Tout à fait,
d'ailleurs.
8 ans, oui.
C'est pas ton premier défi. Je pense que tu es originaire de Dijon parce que tous tes runs finissent à Dijon. tes longs runs. Tu as fait d'autres défis solidaires. Tu avais fait en 2022 un Lyon-Dijon, 228 km en 4 jours. En 2023, Paris-Dijon, 400 bornes. Tu arrives à récolter des sommes. Et là, tu te lances un magnifique défi. Ce sera 600 km en 15 jours, relié Marseille à Dijon. C'est l'équivalent de 15 marathons consécutifs. C'est quoi la date, Mika, d'ailleurs ?
Alors, ça sera mi-octobre. Là, j'ai décidé vraiment de continuer à évoluer au niveau des kilomètres parce qu'en fait, le Paris-Dijon, je m'étais vraiment bien préparé. J'étais plutôt bien et là, j'ai vraiment décidé de taper fort cette année pour voir un peu où sont mes limites, et vraiment dans la difficulté maximum, tout simplement parce que je serai tout seul sur cette aventure, il n'y aura personne qui va me suivre, je n'aurai absolument pas d'assistance, j'aurai un sac de 5 kilos sur le dos, et le soir je vais dormir chez l'habitant que je ne connais absolument pas.
Ah, donc tu as besoin de communication pour savoir chez qui tu vas dormir. Tu vas pas toquer aux portes comme ça, ok.
Alors au début c'était un peu le délire de taper aux portes. Ouais. La première aventure je l'avais fait, mais effectivement j'ai perdu énormément de temps, parce qu'il faut savoir qu'après il faut récupérer pour enchaîner le lendemain quand même. Et effectivement cette année je compte vraiment sur la communauté, notamment d'Instagram et les gens qui vont pourquoi pas nous écouter, pour pourquoi pas me venir en aide s'ils habitent entre Marseille et Dijon. Pour me ramener des ravitaux ou pour m'héberger, donc voilà, je fais appel à eux pour avoir de l'aide, effectivement.
Tu vas diffuser le tracé en amont, j'imagine, le passage
exactement.
De ville en ville. Voilà, donc on peut retrouver ça sur quels réseaux sociaux d'ailleurs,
je vais vraiment diffuser tout l'itinéraire avec tous les points d'arrivée sur Instagram, sur mon compte personnel. Mm-hmm. Donc Mika-trek.
Mika, c'est Mika, je le précise.
Mika, tout à fait, voilà. Ouais. Et je vais mettre toute ma préparation, que ce soit physique, mental, logistique, parce que c'est vraiment un gros truc. Rien ne doit être laissé au hasard. Et donc tout sera diffusé sur ce compte-là, et même l'aventure, il y aura un point GPS, on va pouvoir me suivre, on va pouvoir notamment aussi donner de l'argent à cette petite fille sur une cagnotte mise en ligne. Donc voilà, tout se passera là-dessus.
C'est la question que j'allais te poser, c'est comment tu récoltes de l'argent, c'est avec des dons solidaires comme ça, une cagnotte qui est mise en place ?
Exactement, une cagnotte qui est mise en ligne, et tous les jours, voilà, on fait le point sur cette cagnotte-là, les gens ont la possibilité de cliquer sur le lien et de mettre 5, 10, 15, 20 euros. Il n'y a pas de petits dons et fur et à mesure, ça augmente. Depuis 2 ans, j'ai réussi à récolter 7500 euros. Et là, il y a un mois, on a réussi à acheter une voiture médicalisée à cette petite fille. Donc, ça a été vraiment la concrétisation de ces 2 ans d'efforts et d'aventures. C'était quelque chose de très, très émouvant pour moi. Et voilà, je veux continuer encore dans cet élan-là et de continuer à aider cette petite fille.
600 bornes en 15 jours, Yodu, c'est solide. Hein.
C'est pas mal, ouais. Effectivement, ça fait un marathon par jour quasiment, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, pendant 15 jours.
Ah ouais. Ouais. Bravo.
T'as un objectif de chrono ou pas précisément ? Non, tu te mets pas
de pression. Pas du tout. Non. L'objectif, c'est vraiment de gérer mon effort. Ça va être ça le plus compliqué, parce que 15 marathons d'affilée, voilà. Je compte faire 70% de course à pied et 30% de marche rapide pour essayer de récupérer pendant ces périodes-là. Okay. Et puis, en fait, voilà, comme je vous dis, c'est de l'extrême, parce que je vais devoir trouver à manger moi-même, trouver de l'eau moi-même, me diriger avec l'itinéraire. Je vais devoir me soigner, parce que je vais avoir forcément des petites choses à régler au niveau... Ouais, on est bien d'accord. C'est pour ça que cette année, je compte faire quelque chose de particulier. Je vais courir le matin en chaussures et l'après-midi en sandales minimalistes pour avoir les pieds à l'air et pour éviter tout frottement et l'échauffement. Parce que j'ai beaucoup souffert les précédentes aventures, j'ai été infecté notamment au niveau des pieds. Donc c'est compliqué de trouver des solutions, donc je vais essayer ça cette année.
C'est chaud là, et Johan, de s'entraîner pour ça, de réussir à enchaîner comme ça les longues distances, c'est vrai que c'est un effort particulier. Même si tu ne mets pas une intensité maximale à chaque fois, c'est la répétition des kilomètres qui peut te faire mal.
Ouais, c'est la répétition, mais après il sait pourquoi il le fait, c'est forcément pour la bonne cause. Donc forcément il y a ce regain de motivation quand je pense que quand tu es fatigué et que tu es usé et que tu en as marre, bah, tu te dis non, tu n'as pas le droit de stopper quoi qu'il arrive. Donc effectivement tu vas chercher au plus profond de ton cœur un peu dès que c'est dur. Quoi. Donc bravo.
Est-ce que tu as fait le tracé, Mika, déjà ? Est-ce que tu sais le dénivelé qui t'attend ?
Alors, c'est en cours. J'ai déjà, bien sûr, regardé, j'y travaille.
Passe par les Alpes un peu pour mettre un petit détour.
Ouais, c'est ça.
Pour rajouter de la difficulté. Mais effectivement, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a quand même pas mal de dénivelé.
C'est sûr.
De Marseille à Dijon, je dois être à 4500 en dénivelé sur 600 bornes. Donc, c'est pas rien. Ça va rentrer dans les cuisses, ça va rentrer dans la fatigue.
Ah ouais.
Ouais, j'espère.
Comment tu traces d'ailleurs ?
Je vais passer dans des endroits assez.
Tu suis des nationales ? Comment ça se passe ?
Non, bah en fait, je travaille avec deux applications où j'essaie de prendre les chemins les plus sécurisés. Okay. Donc, en général, c'est malheureusement des pistes cyclables. C'est le long du canal, etc. Oui. Alors, c'est assez dur parce que c'est des longues lignes droites très ennuyantes. Mais par contre, je suis en sécurité. Quoi.
C'est serein, ouais.
Est-ce que tu as des anecdotes particulières sur tes deux expériences précédentes ?
Paris-Dijon
ou Lyon-Dijon ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
On en parle de ça, Yodu ?
J'imagine pas sur un tracé comme ça, déjà chez moi, je me fais attaquer tout le temps.
Ah ouais.
C'est horrible. Les chiens, effectivement, ça commence à être vraiment un problème. Et surtout, au bout de 200-300 km, de la solitude. Il y a souvent où le long du canal, je commençais à voir des choses que je ne voyais pas. Je commençais à avoir des hallucinations. Ah, je voyais des trucs dans l'eau, un peu bizarres, dans les arbres, etc. Et ça, c'est dû à la fatigue, à l'accumulation des kilomètres, à peut-être le manque aussi de nourriture par moment, parce que des fois, je ne trouvais pas forcément ce que je voulais sur la route pour manger. Voilà, c'est une gestion vraiment de dingue, quoi. Le cerveau est toujours connecté et tu es toujours à l'affût de tous les détails.
On en sourit, mais ça fait peur, un chien qui te course. Johan, ça a dû t'arriver souvent. Moi, ça m'est arrivé une fois. Tu fais pas le malin quand même.
Ouais, moi, ça m'est pas arrivé très souvent aussi, mais franchement, honnêtement, c'est vrai que j'avais un parcours où j'y passais plus parce que je savais qu'une fois sur deux, le portail était ouvert et que le chien, il te courait après. Tu vois, même s'il m'a jamais sauté dessus, il te court après pendant 100 mètres, donc tu te tapes un sprint pour, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais bon, c'est un peu chiant ça, ouais.
Ouais, c'est un problème. Ça serait un truc à parler, ça. C'est vraiment un problème.
T'as un sac à dos de 5 kilos, tu disais ?
Ouais, 5 kilos, j'essaie de mettre vraiment ce qui est. Le minimum. Alors j'ai deux t-shirts que je laverai ou pas d'ailleurs quand je pourrais.
On perd pas de temps.
Deux paires de chaussettes. voilà, j'ai une trousse à pharmacie. J'ai vraiment le strict minimum que je peux avoir. Mais effectivement, à force, ça accumule au niveau du poids et la nourriture aussi. J'ai deux litres d'eau devant et un litre devant. Ouais, donc tu vois, ça chiffre vite. Hein. Ouais. Ça chiffre vite. Donc voilà, c'est une grosse préparation même au niveau musculaire, parce que je ne suis pas un gabarit très, 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 très épais, donc il faut muscler un peu tout ça pour être prêt, quoi.
Mika Run Trek sur Instagram. Mika, bravo pour cette belle initiative. Une grosse pensée pour Mila et sa famille, cette petite fille de 8 ans que tu accompagnes et que tu aides comme tu peux. Félicitations pour cette action. C'est en octobre, donc on vous l'a dit, la distance de Marseille-Dijon, 600 km en 15 jours. Si jamais vous pensez être sur l'itinéraire, allez déjà voir sur la page Instagram de Mika. Et si vous êtes sur l'itinéraire et que vous voulez lui venir en aide, n'hésitez pas à le contacter et ça nous fera plaisir. On racontera d'ailleurs ton arrivée, nous racontera ton périple à la fin du mois d'octobre.
Avec plaisir.
Merci Mika d'être venu dans RMC Running.
Merci. Merci de m'avoir reçu, les gars.
Bon courage.
À très vite. Merci encore.
Et un grand merci à Yannick Elaf qui est venu nous raconter son histoire. On est encore touché par ce qu'il vient de nous raconter, Yodu. Donc, Yannick, on te souhaite le meilleur. Hein, on va te suivre attentivement, voir ce qui va se passer pour toi dans les prochaines semaines. Et puis tu passes quand tu veux, quand tu es à Paris, en studio, pour discuter avec nous, pour revoir la mèche.
Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli et m'avoir permis de raconter mon histoire ici.
Et avec plaisir. Et il y a une chanson pour terminer l'épisode. C'est toi, Yannick, qui l'a choisi, d'ailleurs ?
Ouais, c'est une musique que j'écoute beaucoup. C'est un rappeur franco-algérien que j'écoute beaucoup.
C'est qui ?
Il s'appelle Tiff. Il a beaucoup de bonnes paroles.
Okay.
Et de bons écrits. J'aime bien sa plume, entre guillemets. Et voilà.
Et la chanson s'appelle Demain, c'est loin, c'est ça ?
C'est ça.
Merci Yannick Elaf d'être venu dans
RMC
Running.
Un grand merci. Salut Yodu.
Et ouais, au grand frère, le maître Yodu, la star de Bergerac.
Tortue Ninja.
Ça m'intéresse. Un nouveau surnom pour Johan Durand. Ah bah Tortue Ninja, je le note, comme ça je le ressortirai. Et tu nous expliqueras, Yodu, ça le fait rien.
Je sais pas s'il s'en rappelle.
Tortue Ninja.
Bon, on verra. Bon, je sais pas laquelle t'étais. Donatello, peut-être.
Donatello. Comme Mbappé.
Merci Ali, merci Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer: quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. Signature chez son qui sauve, corps anesthésié, mais je réfléchis sans. Plus t'es vif, plus t'as de la monnaie qui dort. Et comme les autres, t'étais réticente, mais tu reviendras une fois le projet qui sort. Je le fais pour le fun, pas pour le boule de folle. Les gauches, t'es eu en pote, mais je vais te garder en fan. RMC Running.